Frères et sœurs, soyez toutes et tous les bienvenus à l'écoute de ce nouveau moment de rencontre avec le Seigneur. La grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Nous sommes tous différents, nous sommes même dans des lieux différents ce matin, et pourtant nous sommes unis par le seul lien de la parole de Dieu. Unis aussi par un même désir, une semblable soif de Dieu. Nous écouterons sa parole, nous essaierons d'entendre sa voix, de dire paisiblement notre prière, et nous pourrons proclamer que la vie est belle dans la lumière de Dieu. Ouvrons nos cœurs, frères et sœurs. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là, il est venu pour nous. Il apporte la paix, l'espérance et l'amour. Chantons notre premier cantique. Acclamez Dieu, gens du monde entier.
Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, tu es grand, grand et glorieux, grand et glorieux. Tu es roi, tu es roi, fort et redoutable, nous t'honorons.
Prions. Seigneur, en dépit de la situation que nous vivons actuellement et de notre dispersion physique, nous pouvons toutefois affirmer que nous sommes rassemblés en ton nom aujourd'hui. C'est donc bien un jour de joie pour ton Église. Seigneur, donne-nous ton esprit comme tu nous l'as promis. Qu'il se saisisse de chacun de nous et nous saurons découvrir dans le monde les signes de ta présence. Qu'il bouscule notre façon de vivre et de penser. Et avec lui, nous ferons toutes choses nouvelles. Vienne le jour où la terre entière proclamera Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Entrons à présent dans un temps d'adoration et de louange. Et nous voulons le faire avec ce cantique. Il veut nous rappeler la fidélité de notre Seigneur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Nous voulons poursuivre ce moment de louange avec la lecture du psaume 111. Le psaume 111 fait partie de ces psaumes qui sont dits alphabétiques, c'est-à-dire qu'en hébreu, dans la langue dans laquelle il a été rédigé, chaque strophe, chaque vers commence par une lettre différente de l'alphabet. C'est-à-dire que symboliquement, tout est là pour louer le Seigneur. Psaume 111. Louez le Seigneur l'Éternel. Je célébrerai le Seigneur de tout mon cœur, dans le conseil secret des gens droits, comme dans la communauté. Les œuvres du Seigneur sont grandes, recherchées par tous ceux qui y prennent plaisir. Son action est éclat et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a fixé le souvenir de ses actes étonnants. Le Seigneur est clément et compatissant. Il a donné de quoi manger à ceux qui le craignent. Il se souvient pour toujours de son alliance. Il a révélé à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant le patrimoine des nations. Les œuvres de ses mains sont loyauté et équité. Toutes ses directives sont sûres. Pour toujours, à jamais inébranlable, faite avec loyauté et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple. Il a institué pour toujours son alliance. Son nom est sacré et redoutable. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Sa louange subsiste à jamais.
Frères et sœurs, je vous invite à chanter En Jésus seul, j'aime 1004.
Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant pour quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, par ce qu'il m'a sauvé. Jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par la mort de Jésus je vis.
Michée, au chapitre 6, verset 8, Dieu s'adresse ainsi à son peuple. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Je vous invite à la prière. Père Céleste, tu n'as pas pour nous des exigences démesurées. Mais trop souvent, nous nous montrons indignes de la confiance que tu as en nous. Seigneur, délivre-nous de notre indifférence et de notre ingratitude à ton égard, comme de tout oubli de tes commandements. Seigneur, délivre-nous de toute forme d'égoïsme et de tout manque de générosité envers notre prochain, comme de toute mauvaise humeur. Seigneur, délivre-nous de toute lâcheté, de tout découragement, et de toute paresse à ton service. Seigneur, délivre-nous aussi de toute vanité et de tout orgueil de nous-mêmes. Et nous savons, Seigneur, que toi, tu pardonnes et qu'en toi réside la véritable libération. Amen. À la fin du livre de Michée, retentit la promesse de pardon. Michée 7, versets 18 et 19. Qui es-tu, Dieu, toi qui pardonnes les fautes et qui passes sur les révoltes? Tu ne gardes pas ta colère à toujours. Tu prends plaisir à faire grâce. Tu auras encore compassion de nous. Tu mettras nos fautes sous nos pieds. Tu jetteras tous nos péchés au fond de la mer. Notre ami David a préparé une histoire pour les enfants qui peut aussi être écoutée, voire appliquée par les adultes.
Bonjour les enfants. Vous savez, comme bien des personnes, lorsque le temps s'y prête, j'aime regarder des séries et des films. Et une catégorie que j'aime particulièrement est celle des séries et des films avec des super-héros. Spider-Man, Captain America, Iron Man, les Avengers. J'aime le fait que ces personnes soient capables de mettre leur vie en jeu pour tenter de sauver le monde, ainsi que de parfaits inconnus. J'aime le fait qu'ils persévèrent, quand bien même ils passent par de grandes difficultés et des remises en question, au point même que parfois, ils sont sur le point de tout abandonner. Dans leur lutte, ils sont bien souvent seuls, mais ils tiennent bon malgré l'adversité, malgré les dangers, malgré leurs blessures, car ils veulent être un rempart, un mur infranchissable au mal. Et parfois, pour cela, ils sacrifient même leur vie. Eh bien, dans la Bible, il y a un personnage que j'affectionne tout particulièrement et que j'admire parce qu'il ressemble, selon moi, à ses héros. Cette personne, c'est Élie le prophète. Vous le connaissez? Eh bien, c'est de lui dont je vais vous parler ce matin. L'histoire d'Élie commence ainsi. Élie se tient devant Achab, un roi d'Israël qui est considéré comme un très mauvais roi, car il a abandonné le Seigneur et ses commandements et il s'est mis à adorer Baal, un autre dieu. Élie a alors le courage de se tenir devant lui, au péril même de sa vie, pour lui annoncer une mauvaise nouvelle de la part du Seigneur. Élie aurait pu fuir, ne pas y aller. Mais non, Élie aimait Dieu et voulait faire ce qui était juste. Lorsque je dis que Élie alla se tenir devant le roi au péril de sa vie, c'est parce que Jézabel, la femme de ce roi, massacrait tous les prophètes du Seigneur. Le roi risquait donc de profiter de son entretien avec Élie pour le mettre à mort. Il en faut du courage pour y aller malgré tout, pas vrai? C'était l'amour pour le Seigneur et sa foi en lui qui le guidait. Élie est donc allé trouver ce roi, car le Seigneur avait décidé de le punir, lui, ainsi que tous ceux qui l'avaient abandonné. Leur punition était qu'il n'allait plus pleuvoir pendant des années sur le pays. Ce qui est terrible, car ça veut dire qu'il n'y aura presque plus de nourriture, car sans eau, rien ne pousse. Le pays allait donc connaître un temps extrêmement difficile. Après avoir trouvé le roi, le Seigneur demanda à Élie de fuir. Et c'est ce qu'il fit. Pendant 2 ans, Élie s'est caché alors que le roi Achab le recherchait partout. Et pendant ce temps, Dieu prit soin de lui. Il lui fit venir de la nourriture par des corbeaux et par une femme qui avait perdu son mari. Et voilà qu'un jour, le Seigneur demande à Élie de retourner voir Achab pour lui annoncer que la pluie allait revenir. Et une nouvelle fois, Élie ne craint pas. Il va se présenter devant le roi et il ne mâche pas ses mots. Il lui dit les choses comme elles sont. Il lui dit « C'est toi qui attire le malheur sur Israël, parce que tu as abandonné le Seigneur et ses commandements, et que tu adores Baal. » Et Élie fit le même genre de reproche à tout le peuple, en lui disant d'adorer Dieu seul. Chacun, en effet, doit être capable de faire le bon choix. Le peuple ne doit pas suivre bêtement un mauvais roi. Il aurait dû avoir le courage de s'opposer à lui. Et pour prouver à tous que le Seigneur est le seul Dieu qui mérite l'adoration, Élie a défié tous les prophètes qui servaient Baal sur une montagne en faisant tomber le feu du ciel. Élie remporta la bataille pour le Seigneur. Quel jour grandiose cela a dû être! Quelle joie il a dû ressentir! Et pourtant, peu de temps après, il apprit que la reine Jézabel, pour se venger, voulait le mettre à mort. Et là, une fois encore, Élie dut fuir pour sauver sa vie. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Il y avait quelque chose de différent. Élie n'en pouvait plus. Il en avait assez. Il voulait même mourir et demanda à Dieu de le reprendre. Il lui dit « Cela suffit. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Oui, même les héros peuvent passer par des crises. Et là, lorsqu'Élie était au plus bas, Dieu est venu le trouver et il a pris soin de lui. Il lui a redonné des forces pour qu'il puisse continuer à être son héros. Il lui a rendu de l'espoir. Alors voilà comment est notre Dieu. Un Dieu qui prend soin de nous et sur qui nous pouvons nous appuyer dans nos moments difficiles. Les enfants, j'ai voulu vous partager cette histoire ce matin pour une bonne raison. Je pense que Dieu m'a mis à cœur de vous la raconter, car dans la semaine, j'ai vu aux informations l'histoire d'une jeune fille qui a décidé de mettre fin à ses jours car elle trouvait la vie trop difficile. À cause du virus, elle ne pouvait plus travailler et elle perdait trop d'argent. Alors, elle n'en pouvait plus. Elle ne voyait pas d'issue. Pourtant, c'était une personne enthousiaste, joyeuse, qui prenait soin des gens qui venaient la voir. Mais voilà, elle était à bout de force. Et personne ne lui est venu en aide pour la secourir. J'aimerais donc vous dire deux choses ce matin. Première chose, nous avons un Dieu auquel nous pouvons nous accrocher et qui nous permettra de tenir bon malgré la pandémie. Un Dieu sur qui nous pouvons nous appuyer et qu'il nous faut servir avec foi et qui ne nous abandonnera pas. Et deuxième chose, soyons nous aussi des héros. Faisons ce que nous devons faire, même si pour cela, nous devons faire face, seuls, contre tous. Venons en aide à ceux qui en ont besoin et prions pour eux. Témoignons-leur de qui est Dieu, pour que eux aussi aient quelque chose à espérer. Amen. Voilà les enfants, mon histoire est terminée. Si vous voulez en savoir plus sur le prophète Élie, vous trouverez son histoire dans la Bible à partir de 1 roi 17 jusqu'à 2 rois 2. Et avant que nous prions, j'ai une petite annonce à vous faire, ainsi qu'à vos parents. À partir de dimanche prochain, commence le temps de l'Avent, c'est-à-dire la période durant laquelle nous sommes invités à nous préparer à l'arrivée de Noël. Et en cette période, en plus du culte habituel que vous trouverez sur le site de l'Église, il y aura un lien vers une petite vidéo que nous vous invitons à regarder avant de suivre le culte.
Les enfants, qu'est-ce qu'on fait quand on veut prier ?
On joint les mains, on baisse la tête, on ferme les yeux et on parle à Dieu.
Seigneur, nous te remercions pour cette histoire, car tu nous montres combien tu es bon envers tes enfants, combien tu les aimes. Rends-nous capables de t'aimer nous aussi, à travers nos actes, nos pensées et nos paroles. De savoir faire les bons choix, même quand c'est difficile. Car tu es un Dieu qui n'abandonne pas ceux qui t'aiment et qui veut faire de chacun de nous des héros comme Élie. Fortifie-nous et aide-nous à encourager à notre tour nos amis, les membres de notre famille, ainsi que notre entourage, afin qu'eux aussi s'attachent à toi. Nous te remercions pour tout ton amour, et c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen.
Nous avons maintenant le privilège d'écouter la parole de Dieu, mais au préalable, je vous invite à prier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Seigneur notre Dieu et notre Père, notre route est parfois obscure, parsemée de pièges et de pierres. Notre marche est souvent incertaine, menacée d'erreurs et d'errances. Que ta parole soit pour nous aujourd'hui un phare qui nous montre la direction, une lumière qui nous guide dans l'inconnu, une lampe qui éclaire nos décisions, un flambeau qui annonce ta venue. Par le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.
Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 14, du verset 8 à 18. À Lystre, un homme impotent des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte « Lève-toi droit sur tes pieds ». Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule se mit à dire tout haut en lycaonien « Les dieux sont descendus vers nous sous une forme humaine. » Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui prenait la parole. Le prêtre de Zeus, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des guirlandes vers les portes. Il voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Quand ils apprirent cela, les apôtres Barnabas et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en s'écriant « Pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous et nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il a fait. Il vous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles, il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. C'est à peine s'ils purent, par ses paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. »
Frères et sœurs, il existe à l'heure actuelle, notamment dans certains médias, une tendance à vouloir gommer ou nier les spécificités des uns et des autres. On n'ose plus rien dire de peur de choquer ou de déranger éventuellement. Et pourtant, notre monde, notre vie elle-même, n'est-elle pas plurielle ? Nous avons en effet une perspective, une existence qui n'est pas forcément partagée ou comprise par l'autre. Dans un sens, c'est évidemment une formidable richesse, tous sont différents, mais cela constitue aussi une mise en garde. Dans le ministère que nous avons tous en tant que chrétiens, en tant que disciples, en tant que témoins, il n'y a donc pas une seule manière d'être, un modèle transposable à l'infini. S'ouvrir à l'autre, aller vers l'autre, aimer l'autre, cela nécessite une dynamique particulière, un effort particulier et même spécifique à chaque fois. À l'inverse, ne pas tenir compte de la spécificité de l'autre, méconnaître ce qu'il est ou son vécu, cela peut entraîner des incompréhensions, des malentendus, des blocages, des exclusions, voire des conflits. Voilà pourquoi aller vers l'autre n'est jamais quelque chose d'évident, même hors période de confinement. Et nous avons un bel exemple de ce genre d'incompréhension dans cet épisode du livre des Actes. La scène se déroule lors du premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas. Au préalable, ils ont déjà été dans différentes régions, à Chypre, à Antioche et Iconium. Chacun de leurs passages suscite tour à tour des adhésions ou au contraire de violentes réactions. L'étape qui nous intéresse ici les conduit dans la ville de Lystre, dans la Turquie actuelle. L'originalité de ce passage est que pour la première fois, les missionnaires entrent en contact avec une population entièrement païenne. Ce ne sont plus des juifs, des personnes bercées dans un culte monothéiste et qui ont connaissance des Écritures. Non, cette fois, leur auditoire est composé d'une population adepte d'un culte polythéiste de dieux gréco-romains. Le choc interculturel, comme on dit aujourd'hui, est donc extrême. Paul annonce l'Évangile et remarque dans l'assistance un homme qui, nous dit le texte, a la foi, sans plus de précision. Peut-être l'homme était-il particulièrement attentif, peut-être s'est-il mis à prier, peut-être posait-il des questions. On ne sait pas vraiment, mais toujours est-il que cet homme a la foi, et le texte nous dit même la foi pour être sauvé. Seul petit problème, cet homme était aussi handicapé. Paul, envoyé du Seigneur, lui dit d'une forte voix « Lève-toi, droit sur tes pieds », et l'homme sauta et marchait. Le texte pourrait s'arrêter là, et tout le monde serait dans la joie. Seulement voilà, c'est à partir de ce moment-là que les choses vont mal tourner. Parce que la population de Lystre va interpréter ce miracle à partir de ses propres clés de lecture. Et en particulier va considérer Paul et Barnabas comme des incarnations de leur dieu grec. Le texte nous dit « Les foules élevèrent la voix et dirent « Les dieux se sont rendus semblables à des humains et sont descendus chez nous. » Ils les appelèrent Zeus et Hermès. La situation allait même escalader, car le prêtre local de Zeus amena des taureaux, des guirlandes, aux portes de la ville. Il voulait, avec les foules, offrir un sacrifice, nous dit le texte. Au moment où ils ont compris ce qui se déroulait, Paul et Barnabas ont même peut-être dû regretter ce miracle et cette guérison. Voyez comment sont les choses. L'être humain est malheureusement toujours ou souvent en quête de signes tangibles auxquels il pourrait se rattacher. Et voilà que lorsque ces signes se produisent de manière exceptionnelle, ils deviennent source d'incompréhension, d'hérésie et même de folie. Et rien que cet épisode-là pourrait alors nous mettre en garde sur une foi qui serait uniquement basée sur des miracles ou sur des signes visibles. Les hommes de Dieu sont ici tellement mal qu'ils en viennent à déchirer leurs vêtements. Geste ô combien symbolique et certainement bien compréhensible dans le Moyen-Orient. La Bible nous parle d'ailleurs à plusieurs reprises d'individus qui déchirent leurs vêtements pour exprimer leur douleur, leur effroi, leur désespoir et même leur deuil. C'est dire le malaise de Paul et Barnabas. Les deux se précipitèrent dans la foule en criant « Mes amis, nous sommes des êtres humains comme vous. » Et ceci va être une occasion de prêcher le Dieu vivant. Une fois qu'il a compris à quelle méprise le miracle avait conduit la foule, Paul se doit d'avoir des mots bien sentis, bien en phase avec le public qu'il a en face de lui. Et il le fait en évoquant Dieu créateur. Celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Le Dieu qui a fait les saisons fécondes qui vous comblent de nourriture et de bonheur. Paul s'adresse à des païens et se met à leur portée. Dieu est créateur de tout ce qui existe, il pourvoit aux besoins de l'humanité, que celle-ci le connaisse ou pas. Ainsi, Paul s'oppose au panthéisme et à l'idolâtrie, parce qu'il affirme que Dieu est souverain, et surtout qu'il est distinct de sa création. Non seulement Dieu est distinct de sa création, mais il prend soin d'elle. Bref, pour gagner son auditoire, ou pour tenter de le gagner, Paul crée un pont avec ce que ces gens connaissent, un pont avec leur monde. Et il procède par différentes étapes pour évoquer le Dieu vivant. Paul et Barnabas ont ici le courage de la rencontre. C'est là que nous pouvons envisager l'actualité de ce passage. Frères et sœurs, dans le commandement central du Seigneur, il y a cet appel répété d'aimer son prochain comme soi-même. Laissez-moi vous dire une vérité qui va peut-être vous surprendre. Le prochain, l'autre, n'est en fait pas comme moi-même. Il est autre. La rencontre ne va donc pas forcément de soi. Elle demande un effort. Face à l'autre, face à l'image qu'il me renvoie, quelle réponse apporter ? Sans doute pas uniquement les miennes. Et il est bon d'accepter le face-à-face et même parfois la confrontation. Vous le savez évidemment, les relations humaines, hier comme aujourd'hui, sont souvent soumises aux incompréhensions ou aux malentendus. Mais le tout est de ne pas s'arrêter au constat du malentendu, mais de montrer qu'il peut être un tremplin pour une meilleure compréhension de soi, une meilleure compréhension de l'autre, une meilleure compréhension de Dieu. La véritable rencontre avec l'autre, avec mon prochain, ne consiste pas à rester enfermé dans ses propres convictions, dans ses propres certitudes. Mais la rencontre consiste aussi à se frotter au monde, à sa mixité et même à ses contradictions. Il nous faut redécouvrir cette véritable rencontre. En ce sens, le récit de Paul et Barnabas peut élargir notre vision. Ma propre vérité ne se résume pas au dogme auquel je crois, mais elle implique aussi toute mon existence au cœur d'un monde. Paul nous apprend ici que se positionner, par exemple, par rapport à la création est un bon point de départ. C'est comme remettre les compteurs à zéro. Annoncer l'évangile, vivre l'évangile, cela ne peut se faire par le prisme de eux et de nous. Eux qui sont forcément pécheurs, eux qui sont dans l'ignorance, et nous qui savons, nous qui aimons. Ne serait-ce pas là un contre-témoignage ? Voilà pourquoi ce discours de l'apôtre Paul est essentiel. Avant d'aller vers l'autre, il faut se souvenir et accepter que l'autre aussi est aimé de Dieu. Se rappeler que nous sommes tous créés à l'image de Dieu est certainement un bon antidote à notre orgueil et notre aveuglement. Est-ce l'épisode de Lystre qui a poussé Paul à écrire ces célèbres mots « Je me suis fait tout à tous » ? Qui sait ? Mais le fait est que « je me suis fait tout à tous » peut être vu comme un programme pour notre vie de témoin. Attention, se faire tout à tous, ce n'est pas de la démagogie, ce n'est pas tout accepter, Ce n'est pas être prêt à toutes les compromissions pour embrigader l'autre, pour le convertir à ma manière de penser ou d'être. C'est même sans doute le contraire. Car Paul nous propose même un virage à 180 degrés par rapport à ce qui se fait souvent. Il ne dit pas « Venez à nous, vous, vous étiez dans l'erreur, je vais vous faire connaître la vérité, je vais vous faire connaître Dieu. » Il nous dit qu'un apôtre, que celui qui est envoyé, il fait l'inverse. Il va vers les personnes de l'extérieur et c'est lui qui s'adapte à elles. Quand Paul dit qu'il se fait tout à tous, ce n'est pas du clientélisme, mais c'est une façon de rejoindre l'autre là où il est, en se faisant son serviteur. Parce que Dieu, le premier, en Christ, est venu nous rejoindre là où nous sommes, et s'est fait lui-même notre serviteur. Plutôt que d'inviter l'autre à devenir comme nous, l'apôtre Paul nous propose d'aller vers l'autre, de s'en approcher, d'essayer de le comprendre et de l'aider, non pas de le dominer ou de le juger. Si on aime quelqu'un, nous l'accepterons comme il est. Nous l'accompagnerons dans cette façon d'être parce que, nous dit Paul, avec le Christ, nous sommes dans la liberté, mais pas dans le n'importe quoi. Nous nous ferons tout à tous, nous dit Paul. Nous rejoindrons l'autre là où il est. Nous nous ferons son serviteur et non son maître. Il est question d'aller vers tous, de le rejoindre dans sa culture, son rythme, sa façon d'être, ses besoins, ses souffrances. Le Christ n'a eu cesse d'aller à la rencontre des pécheurs, des gens de mauvaise vie, des exclus. Et on l'a fortement critiqué pour cela. Et lui, il appelle des personnes, non pas pour les condamner, mais pour les libérer. Il les nomme envoyés, apôtres. Il leur donne la force et l'envie de sortir, de penser par elles-mêmes, de risquer aussi des rencontres. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, à notre tour, nous sommes toujours appelés à aller vers l'autre, mais pas à l'aveugle, pas non plus comme des guerriers ou des conquérants, mais aller vers l'autre, aller à l'autre avec de la bienveillance, de la compréhension, de l'écoute et de l'amour. Et c'est vrai que nous désirons sans doute apporter quelque chose à cet autre. Mais ce que nous avons à offrir n'est pas une leçon, ni de théologie, ni de morale, mais plutôt une promesse et un appel de Dieu. Ce que nous offrons de la part du Christ, c'est une liberté, et donc y compris celle de penser autrement que nous. D'ailleurs, c'est le sens même du mot « église », « ecclésia » en grec, vient de « hors de » et « kaleo », « appelé ».« Ecclésia » signifie littéralement « être appelé hors de », »,« hors de chez soi ». C'est être mis en chemin. Fondamentalement, l'Église n'est donc pas au sens propre un rassemblement, c'est au contraire un appel à sortir. C'est un envoi en mission. Et dans cette mission qu'est la nôtre, c'est Dieu qui doit toujours pouvoir rester au centre. Nous sommes des êtres humains, rappelaient vigoureusement Paul et Barnabas aux habitants de Lystre. Si nous vous annonçons la bonne nouvelle, c'est pour que vous vous tourniez vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est le Seigneur qui pourra alors lui-même agir et resplendir au cœur de nos relations humaines, au cœur de nos rencontres, au cœur de nos vies, où l'autre pourra trouver sa place et lui rendre grâce. Amen.
Thank you.
Je vous invite à la prière d'intercession. Père Céleste, nous te remercions pour l'appel permanent que toi tu nous adresses. Et parce que dans ton plan d'amour pour ce monde, tu nous as aussi donné une place où nous pouvons servir là où nous sommes. Aide-nous à discerner, à comprendre ce que toi tu as accompli dans le monde, pour que nous puissions y apporter notre petite pierre à l'édifice. Seigneur, en ces temps si particuliers, nous te prions pour tous ceux et celles qui te cherchent, ceux qui sont dans la souffrance physique ou morale, ceux qui souffrent de cet isolement. Nous te présentons les personnes les plus fragiles de notre communauté et de notre entourage. Viens les fortifier, Seigneur. Viens les redresser. Nous implorons tout spécialement ton aide pour ceux à qui il semble si difficile, voire impossible, de placer leur confiance en toi. Viens les guider, Seigneur, et augmente notre amour, non seulement pour nos frères et sœurs, mais pour notre prochain, quel qu'il soit. Montre-nous comment vivre une vie plus conforme à ta volonté. C'est au nom du Christ que nous prions. Amen.
Voici maintenant le temps des annonces. Premièrement, merci à Patrick de nous avoir conduits pendant ce culte, de nous avoir apporté le message de la part du Seigneur. Merci aussi à David d'avoir apporté le message aux enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Une deuxième annonce, elle concerne l'assemblée d'église que nous aurons le dimanche prochain. Vous savez que nous devrions avoir déjà une assemblée au mois de mars, mais la situation sanitaire nous a empêchés de l'avoir. Donc nous l'aurons, ce sera par visioconférence. Tous les membres électeurs ont été informés sur le déroulement de la dite assemblée par courrier ou par mail. Donc vous avez toutes les informations dans ce que vous avez reçu. Je ne reviens pas là-dessus. Une autre annonce, ça concerne la réunion de la semaine prochaine, le jeudi à 19h30. Ce sera notre soirée de prière, comme c'est le dernier jeudi du mois. Enfin, prions les uns pour les autres et maintenons le contact les uns avec les autres en usant de tous les moyens à notre disposition. Je vous souhaite un très bon dimanche.
Frères et sœurs, prenez pour vous ces paroles d'exhortation qui sont issues de l'épître de Paul aux Colossiens. Ainsi comme vous avez reçu Jésus-Christ, le Seigneur, vivez en lui, enracinez-vous et construisez-vous en lui. Affermissez-vous dans la foi, conformément à ce qui vous a été enseigné, et abondez en actions de grâce. Recevons à présent les paroles de bénédiction. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Je vous invite à terminer ce moment de service en chantant un dernier cantique qui nous dit qu'en Jésus-Christ nous sommes libérés de toute chaîne, de toute servitude.
murailles.